lettre enregistrée le 4 janvier 1960, y a-t-il une fin immédiate ?
Je n'ai pas perdu l'espoir d'aborder le sujet de d'aborder mon sujet avant la fin de ce cours, et peut-être même aujourd'hui. L'aborderons-nous. Jusqu'à présent, et surtout dans la dernière séance qui avait lieu l'année dernière, nous avons parlé surtout de la médiation, et dans des termes tels qu'il semblait qu'il lui place pour deux frivolités inverses que nous avions décrites, deux unilatéralités, et qui étaient l'une celle que nous appelions de la fin sans les moyens, et l'autre des moyens sans la fin. Et d'où il suivait, d'où il semblerait suivre, qu'en dehors de ces deux formes inverses de volonté mutilée, il ne reste de place que pour une seule forme de sérieux dans l'ordre du vouloir, c'est-à-dire pour une grande volonté organique, n'est-ce pas, qui serait une volonté complète, une volonté passionnelle, sincère, qui serait simultanément la volonté de la fin et des moyens, la volonté de la fin à travers les moyens et la volonté des moyens en vue de cette fin, et les deux ensemble. Telle est la seule grande volonté complète qui seule mériterait le nom de volonté sérieuse, de volonté organique, puisque aussi bien la fin et les moyens, la fin à travers les moyens, apparaissent comme un seul organisme, interdépendant, dont les éléments sont interdépendants l'un de l'autre. Et ainsi cette volonté serait, cette volonté que nous disons sérieuse ou même passionnée, serait donc la visée de la fin à travers les moyens qui la rendent possible, qui dans ce monde de cette vallée de la finitude où nous cheminons, la rendent seule possible, et d'une fin en même temps qui n'est jamais perdue de vue. Il s'agirait donc en même temps, et ce serait peut-être une des définitions précisément du sérieux, d'une volonté capable de louvoyer entre les deux dangers inverses, entre les deux monstres inverses, entre Charybde et Scylla, entre la charybde du purisme, c'est-à-dire de la volonté de la fin, toute seule, immédiatement, séance tenante, et du Scylla, de la frivolité numéro 2, je ne sais pas comment l'appeler, celle des moyens qui ont oublié la fin, dont ces moyens étaient des moyens, et qui est donc la frivolité inverse. Donc, une volonté qui nous voirait entre, pour parler un langage plus classique, entre la précipitation et sinon la prévention, tout au moins le retard, entre une conscience pressée qui présentifie séance tenante le futur, comme la volonté puriste, et au contraire celle qui est retenue en arrière. Ce serait donc un sens du présent. Et si j'insiste quelque peu, un peu trop vraisemblablement, sur cette fin de mon introduction, c'est peut-être parce qu'elle rendra intelligible plus tard, d'une manière plus aisée à comprendre, la signification de l'immédiat véritable, comme sens du présent, comme sens de l'occasion, et d'un présent intermédiaire entre ce passé et ce futur, dirons-nous, entre les deux tentations de l'unilatéralité, entre les deux unilatéralités inverse du passé et du futur. Donc, une volonté bien articulée, comme vous le voyez, puisqu'elle est capable de s'appesantir sur les moyens sans oublier la fin, capable d'attente et surtout faisant exception du temps, faisant exception de la valeur du facteur temps. Donc, seule cette volonté serait non point comme les autres, celle que nous appelions frivole et que nous avions étudiée dans la dernière séance, des moitiés de volonté, des volontés amputées de leur deuxième moitié, mais d'une volonté entière, une volonté totale. Si je disais que j'ai pas abordé mon sujet, c'est parce qu'en effet, après avoir ainsi parlé de la fin et des moyens et de la volonté complète, seule sérieuse, eh bien il semble que l'immédiat ne soit pas une attitude sérieuse. Il semble que la seule attitude sérieuse soit précisément cette volonté de la fin et des moyens, faisant exception du temps et par conséquent des intermédiaires. C'est la prise en considération de ces intermédiaires qui serait seule une marque de sérieux et par conséquent la visée directe de l'immédiat, sans intermédiaire et sans tenir compte de l'intermédiarité du temps, serait une espèce de frivolité. Une des façons les plus courantes qu'aurait l'homme d'être frivole, c'est la boulimie de l'immédiat. C'est de vouloir l'immédiat à tout prix et sur le champ, et sans tenir compte du temps. Et il faudrait donc, en ce cas, se résigner à l'idée que la chasse à l'immédiat est de nature frivole. Ce serait donc, en un mot, se résigner à l'alternative. Et d'ailleurs, c'est peut-être une marque de sérieux que de se résigner à la finitude qui est le lot de la condition humaine et qui nous présente toujours une alternative à une disjonction qui sépare ce que nous voudrions bien cumuler. Et il est peut-être sérieux de distinguer ici une fin en soi qui doit être médiatisée, la fin en elle-même qui ne peut être, dont on ne peut parler qu'à condition de la médiatiser, c'est-à-dire de l'atteindre laborieusement ou de ne l'atteindre jamais à travers des intermédiaires, ou alors un immédiat, mais qui n'est nullement une fin, mais qui est plutôt l'ensemble des moyens courants avec lesquels nous avons commerce tous les jours, c'est-à-dire en somme un immédiat qui n'est que moyen terme. N'avons-nous donc le choix qu'entre une fin qui est vraiment la fin, mais que nous ne pourrons atteindre qu'à travers des intermédiaires, ou un immédiat qui est en effet à notre disposition, mais qui malheureusement n'a aucun caractère métaphysique, et même n'a aucun caractère de vérité, et n'est immédiat qu'en rapport avec l'action utilitaire, avec la praxis, comme l'argent est immédiat, comme les biens de ce monde, comme la satisfaction de nos instincts, de nos plaisirs, de nos passions, sont immédiats. Donc, notre faiblesse, selon un relativisme a prioriste, comme nous barre du donné pur, et n'autorise avec lui qu'un rapport indirect. Donc, le donné pur devient en lui-même une chose en soi, inaccessible, et de rapport direct, l'homme n'en a qu'avec ses vers déformants. De rapport direct, l'homme n'en a qu'avec l'immédiat vulgaire de la praxis. Donc, l'homme n'a de rapport immédiat qu'avec les instruments de la médiation. Et avec l'immédiat lui-même, il n'a qu'un rapport médiat. Ça paraît embrouillé, mais c'est clair comme le jour si vous vous relisez. Avec l'immédiat, nous n'avons véritable, ce qui est fait en soi, nous n'avons qu'un rapport médiat. Et nous n'avons le rapport immédiat qu'avec les instruments de la médiation, c'est-à-dire les intermédiaires, les concepts, et comme tout à l'heure nous disions, en parlant de l'instrument par excellence, avec l'argent. Alors le problème qui se pose dans ces termes, par-delà la disjonction qui nous est ainsi offerte, serait de surmonter l'alternative. L'alternative entre la fin médiatisée et l'immédiat de la vie quotidienne, sans valeur de vérité et sans valeur morale de tous les jours. Y a-t-il une fin immédiate? En mettant un tiré entre ces deux mots, qui pourtant ne semblent pas se contredire, mais qui, étant donné la façon dont l'homme est barré de l'absolu, semblent bien quand même se contredire malgré tout. Y a-t-il une fin véritable qui soit objet d'appréhension immédiate, mais qui en même temps ne soit pas un simple intermédiaire discursif, comme les intermédiaires auxquels nous avons affaire dans la vie quotidienne? Je veux dire qu'il soit immédiate sans être pour autant un simple chaînon dans un enchaînement banal, dans une concaténation banale, et qui serait devenu en somme une fin par contrebande, qui serait devenu un terminus par contrebande, comme nous le disions dans la dernière séance, en parlant des intermédiaires de la vie quotidienne auxquels l'homme prend goût, en oubliant le moyen dont ils sont la fin, et qui deviennent ainsi eux-mêmes des fins, mais qui le deviennent par la bande, si on peut dire, qui le deviennent d'une manière honteuse, sans le dire, et par conséquent, qui ne seront jamais que des fins frelatées. Car un médium qui est devenu fin de cette manière-là, c'est-à-dire par accoutumance, simplement parce qu'on y prenait goût, ne sera jamais une fin véritable. Il ne sera jamais qu'un moyen rafistolé, si on peut dire, comme un vieux manteau qu'on a retourné. C'est du neuf fait avec du vieux, mais ça ne sera jamais une fin. Des moyens devenus une fin parce qu'on s'y habitue, et à force d'avoir commerce avec elle, comme les hommes qui oublient pourquoi ils sont là, ne seront jamais une fin véritable. Mais je répète que ce ne sera jamais qu'une fin rafistolée, car en elle-même, elle garde un caractère instrumental, elle est comme les valeurs d'usage, Donc, comme l'implique le mot même d'usage, se servir de uti, n'est-ce pas, servent à autre chose qui n'est pas elle. Donc, dans les valeurs d'usage, l'accent n'est pas sur la valeur elle-même, mais sur la chose en vue de laquelle elles servent. Et en l'espèce, il s'agit par exemple de vérités communes, par ailleurs plus ou moins démontrées ou simplement postulées, de banalités infondées, et en général d'un lieu de passage, le lieu de passage d'un mouvement vers autre chose. Donc, sans intérêt affectif véritable, ou tout au moins d'un intérêt supérieur, sans saveur vécue véritable et profonde. Donc, ce n'est pas ce que nous cherchons. Cet immédiat-là nous garderait en arrière du côté sur le plan que nous indiquions la semaine dernière, l'année dernière, en parlant de l'immédiat spontané, enfin de la conscience spontanée, de l'immédiat du poumon marin, de l'huître et de la méduse, dont parle Platon dans le Philebe, et qui n'est immédiat que parce qu'il est chronologiquement premier, qui n'est point immédiat parce qu'il me offrirait un contact avec la donnée absolue, mais qui est immédiat parce qu'il est simplement antérieur à la réflexion, pré-réflexif, et pas autre chose. Y a-t-il donc, pour s'exprimer d'une autre manière, en redisant la même chose, puisque c'est le seul problème que nous nous posions qui puisse nous intéresser, nous disions, y a-t-il une fin immédiate ? En croyant que ces deux mots sont de se trouver ensemble, ferait jaillir la lumière parce qu'ils jurent d'être ensemble. Mais en réalité, rien ne jaillit parce que les deux mots ne semblent pas tellement se répugner. C'est pour les philosophes qu'en réalité, ils se répugnent. Y a-t-il un immédiat, en d'autres termes, qui soit à la fois prochain, familier, et en même temps lointain? Qui soit à la fois lointain et prochain, n'est-ce pas ? Car l'immédiat de la praxis dont nous parlions n'est que prochain, mais il n'est pas idéal, il n'est pas une fin, et par conséquent, il n'est pas lointain. Il est simplement dans un enchaînement. Y a-t-il un immédiat qui soit à la fois un terme ultime, et en même temps qu'il est un terme ultime qui soit tout proche de nous ? Y a-t-il une proximité lointaine ? C'est un peu le problème, sous une forme peut-être plus imprévue, que nous poserions. Y a-t-il une proximité lointaine ? Voilà donc la contradiction à résoudre lorsqu'on parle de l'immédiat, et c'est assurément à un besoin de ce genre que répondent les philosophies modernes de l'immédiat, par exemple les philosophies réalistes anglo-américaines ou la philosophie bergsonienne. L'immédiat dont elles recherchent ne peut évidemment être l'immédiat qui est comme le billon, comme les gros sous, parce que de ce point de vue-là, le franc nouveau, le franc ancien, c'est le cas de dire que l'ancien et le nouveau sont aussi anciens l'un que l'autre, que c'est du vieux neuf, et que ce n'est qu'un intermédiaire. Il s'agit donc d'une proximité lointaine, et c'est la seule chose dont il semble que cette philosophie moderne ait la nostalgie, qu'elle puisse rechercher en elle-même. Y a-t-il une proximité de la chose lointaine, ou encore une présence de la chose absente ? Ce besoin de proximité, mais non de proximité des choses lointaines, n'est-ce pas ? Parce que la proximité, l'homme a toujours été entouré de présences prochaines, mais qui n'étaient pas intéressantes. Le besoin d'une proximité lointaine est le besoin essentiellement moderne, comme le besoin d'une présence absente, ou d'une absence présente, ce qui revient au même, et qui représente vraiment le besoin d'immédiat que nous sentons aujourd'hui chez les philosophes, aussi différents par ailleurs que James Mark Baldwin, Whitehead, Bergson, par exemple, ou Alexander. Quelques mots sur l'ordre que nous suivrons, ou peut-être que nous ne suivrons pas, mais enfin que je me propose, tout au moins pour être plus clair avec moi-même, même si je ne le suis pas toujours. Il semble d'abord que deux formes de proximité lointaine, enfin d'immédiateté, se présentent à nous. Cette distinction, comme nous le montrerons tout à l'heure, étant d'ailleurs plus spécieuse que réelle, une selon l'espace, comme de bien entendu, et l'autre selon le temps. Proximité, d'abord, comme le mot l'indique, est un superlatif, mais un superlatif qui peut être aussi bien temporel que spatial, mais qui est d'abord spatial. La chose la plus proche de nous. Donc, si vous le voulez, en prenant la chose à l'envers, le besoin de ce superlatif de la proximité, dans l'espace et dans le temps, représente, en parlant à rebours, le besoin d'un minimum d'espace et d'un minimum de temps. La proximité dans l'espace, c'est le minimum d'espace. après lequel, au-delà duquel, eh bien, il y aurait compénétration des deux existences. La proximité est donc l'existence la plus prochaine de la mienne, tout en restant distincte de la mienne. Et de telle manière qu'au-delà de cette proximité, eh bien, il n'y aurait que la coïncidence, il n'y aurait qu'une seule existence en deux. Alors, de quelle manière, en quel point assigner l'existence la plus prochaine, la proximité, qui pourtant ne soit pas la coïncidence? C'est ce que nous répéterons sur tous les tons tout à l'heure et plus tard lorsque nous essayerons d'assigner le point de l'immédiat. Le minimum d'espace et aussi le minimum de temps. Nous dirions en d'autres termes, dans un autre langage, qui d'ailleurs n'est pas tellement plus clair, un presque rien d'espace et un presque rien de temps. Non pas un rien d'espace, ni un rien de temps, car le rien d'espace, c'est la compénétration des existences, c'est une seule existence en deux. Le rien de temps, parce que ce rien de temps, c'est l'instantanéité pure ou l'éternité, mais le presque rien qui est bien différent. Donc, la moindre distance, le moindre intervalle de durée, par exemple, en parlant du temps, le moindre intervalle de durée, la plus petite durée possible, dont la limite serait le point, je m'excuse de ces métaphores qui ne vont pas très bien ensemble, pour un géomètre, la limite qui serait finalement le point de la coïncidence dans l'espace, ou encore l'instant de la simultanéité dans le temps. La limite de la proximité dans l'espace serait le point de la coïncidence, la limite de la proximité dans le temps serait le point de la simultanéité, qui est un instant. On appelle instant ce point qui n'a même pas la position dans l'espace, qui est donc encore plus un presque rien que le point, qui tout au moins est une situation dans l'espace, réduit à l'élément pur de la situation, qui n'a pas d'étendue, de longueur d'étendue, mais qui est tout de même situé dans l'espace, ce qui n'est pas le cas de l'instant. Donc, un quasi-nihil, un presque rien, quel est notre problème? Le problème de l'immédiat, la recherche de l'homme, le contact de l'homme avec l'immédiat, en dehors du problème que pose la donnée elle-même que je découvre, c'est l'abolition des dimensions, n'est-ce pas? L'abolition d'abord des dimensions dans l'espace, des trois dimensions qui donnent une épaisseur à l'espace et qui me séparent de la chose. Donc, le quasi-nihil qui est d'abord la nihil, c'est-à-dire la réduction à rien des dimensions, comme il arrive dans un point. Et d'autre part, la réduction également, la compression, en employant des métaphores qui forcément ne peuvent être que spatiales, la compression du temps jusqu'à l'extrême limite au-delà de laquelle il n'y aurait plus que l'instant. Eh bien, cette abolition des dimensions de l'espace et cette abolition de la dimension temporelle est bien propre à nous donner le vertige, qui est le sentiment que l'homme éprouve lorsqu'il est séparé de la balustrade, du garde-fou, du parapet, du recul que lui donne l'intervalle compris entre lui et la donnée. Qui est le sentiment que l'homme éprouve quand il se trouve nez à nez avec la donnée, sans pourtant être en elle, sans pourtant être elle? Il n'est pas cette donnée, il n'est pas encore dans cette donnée n'est pas encore lui-même, mais comme il est, on ne peut pas être plus près qu'il ne l'est, il éprouve un sentiment de vertige qui est la panique que l'homme éprouve lorsqu'il est surpris sur ses mégardes. Le sentiment que l'homme éprouve quand il n'a plus le recul protecteur que lui donne la connaissance et la distance, quand la distance même s'est abolie. Mais j'en dis beaucoup plus que je ne devrais en dire maintenant. Disons maintenant que, plus simplement, dans la mesure où l'immédiateté et l'abolition de ces trois dimensions des spatiales et des dimensions temporelles, elle est en général un passage à l'extraspatial, une tendance vers l'extraspatial et une tendance vers l'intemporel, tout au moins une tendance. D'abord dans la mesure même où la spatialité nous est rendue sensible par la pluralité des jalons interposés, des jalons intercalés entre moi et l'objet, des différents plans échelonnés en profondeur entre moi et elle. Tout au moins des jalons virtuels, car lorsqu'ils n'existent pas, je puis toujours les inventer, je puis toujours les imaginer. Comme par exemple quelqu'un qui, dans un paysage où manquent les coupures de terrain, qui exprime la profondeur du paysage, les cours d'eau, les collines, les bois, les ruisseaux, les changements de culture, crée lui-même des repères ou des jalons en imaginant à l'avance des étapes, des coupures imaginaires qui représentent les étapes que lui-même découperait s'il avait à traverser ce paysage. Eh bien, à cet égard, on peut dire que nous supprimons ces intermédiaires et qui expriment la spatialité elle-même, les plans intermédiaires échelonnés dans le paysage, dans la nature, par exemple, si c'est d'elle qu'il est question. Et d'autre part, dans la mesure où la temporalité est vécue comme une succession enchaînée d'événements, d'épisodes articulés, de phases successives, de laps successifs, de périodes, d'époques, d'aires successivement articulées et qui composent en général l'intervalle, on peut dire que la compression ou le laminage de cette durée et des intermédiaires qui la composent me conduit vers l'intemporel, me conduit à l'intemporel. Vous voyez donc que la suppression des intermédiaires, aussi bien dans l'espace que dans le temps, aboutit à quelque chose qui est un immédiat à la fois spatial et temporel, et dans lequel la présence et le présent sont une seule et même chose. Là, la présence qui est la suppression au maximum de l'espace, le présent qui est la suppression des intervalles dans le temps, qui est la réduction du temps au minimum, la minimisation du temps. Donc, en ce point, présence et présent ne sont plus qu'une seule et même chose. Ainsi, notre plan semble tout indiqué et paraît clair, enfin peut-être l'est-il surtout en apparence. Notre plan serait d'abord d'étudier l'immédiat spatial, à savoir, par exemple, dans la connaissance, pour réduire au minimum la distance de moi à l'objet, entre moi et l'objet. Deuxièmement, l'étude de l'immédiat temporel, c'est-à-dire la réduction au minimum de l'intervalle qui me sépare du futur. Et enfin, en troisième lieu, à la fois la suppression de la distance dans le temps et dans l'espace, dans mes rapports avec autrui. Par exemple, dans mes rapports avec la personne humaine, notamment dans l'amour, les rapports de l'homme avec la deuxième personne, qui est la personne d'amour. Ainsi, la proximité dans l'espace, l'imminence dans le temps, et à la fois dans l'espace et dans le temps, le rapport de tutoiement de l'homme avec la deuxième personne. Vous remarquerez que dans les trois cas, il s'agit non pas de la donnée elle-même, mais de mes rapports avec la donnée. Le problème de l'immédiat est donc un problème de rapport, le problème de la relation, et non point le problème de la donnée. Nous ne nous interrogeons pas sur la nature même de la donnée, mais nous nous interrogeons uniquement sur les rapports que nous entretenons avec elle. C'est donc dire que ce qui est immédiat pour l'un peut très bien ne l'être pas pour l'autre. Et par conséquent, que aucune chose, aucune donnée n'est immédiate en soi-même, mais simplement peut le devenir, dans son rapport avec le sujet. Peut-on parler véritablement d'un rapport avec autrui, d'un rapport avec la donnée, dans l'immédiat? Est-ce que l'immédiat lui-même correspond à un rapport? C'est donc ce dont on pourrait douter. Car au premier abord, il semble que l'immédiateté exclut d'abord le rapport. Elle semble exclure le rapport lui-même et en faire l'économie. L'immédiateté, économisant les moyens, semble en général transcender la relation, être transcendante à la relation, puisque elle paraît annuler la distance qui me sépare du donné. Mais à regarder les choses de plus près, il semble que le rapport immédiat n'exclut pas le rapport, mais exclut plutôt l'intermédiaire dans le rapport. Ce qui est exclu, ce n'est point la relation, c'est la relation intermédiaire, c'est le moyen qui s'interpose entre moi et la donnée, mais non point le rapport. L'immédiateté est donc bien un rapport, mais c'est un rapport direct. Je vais directement à la donnée, sans passer par un tiers, sans passer par un intermédiaire et par un moyen terme, mais j'ai bien un rapport avec elle. Pour parler un langage plus pédant peut-être, nous dirons que ce qui est exclu, c'est le raisonnement, c'est le syllogisme, logismos, mais non point logos. Le logismos qui est logos de logos, qui est relation de relation, ce qui est exclu, c'est le rapport de rapport, mais ce n'est pas le rapport lui-même. J'ai bien un rapport avec l'autre, mais ce qui est exclu, c'est donc le rapport avec l'exposant, que j'exprime par le mot logismos, logizein, si vous voulez, ou syllogisme. Le logos de logos, donc la médiation syllogistique. En d'autres termes, le problème de l'immédiateté est le problème du rapport direct entre deux termes, entre moi et la donnée, entre la personne et sa deuxième personne, sans un tiers, sans témoin, sans un tertium quid. Par exemple, le dialogue direct est un rapport immédiat, mais c'est un rapport tout de même. C'est un rapport qui ne passe pas par l'intermédiaire d'un troisième, dans lequel je parle directement, je m'adresse directement à la personne avec qui j'ai rapport, sans passer par un neutre, sans lui parler par un intermédiaire, comme le font deux personnes qui se boudent, et qui, au lieu de se parler entre elles, se parlent par l'intermédiaire d'un troisième, ce que font très souvent les nations et les États, qui passent leur temps à se bouder, et qui demandent des conciliateurs et des médiateurs pour se parler par personne interposée. C'est donc une relation intermédiaire et médiate. Donc, le rapport que deux États, que deux collectivités, que deux personnes ont entre elles, est bien un rapport, mais quand il est immédiat, ce rapport exclut simplement le recours à un tiers et à un moyen terme. C'est donc une passerelle jetée directement de l'un à l'autre, et qui va de l'un à l'autre directement. Une relation simple, si vous le voulez. Une relation sans exposant, dans laquelle il n'y a plus que la présence de l'un et de l'autre. C'est pourquoi je dis relation, mais non point relation de relation. Logos, mais non point logismos. Legein, mais non point logizein, qui est un verbe itératif, compliqué, replié sur lui-même. Logizein est un legein avec exposant. De même que le raisonnement est une parole avec exposant, dans laquelle, au lieu de rapporter directement un sujet, un prédicat à un sujet, un attribut à un sujet, je vais en chercher un troisième, parce que l'un et l'autre se boudent, et comme tout à l'heure, je vais chercher un intermédiaire pour les mettre en rapport, pour les obliger à se regarder, car sans cela, ils se regarderaient en chien de faïence. Donc, l'immédiateté, comme vous le voyez, c'est la reprise, au contraire, en un sens, des relations. Donc, nous avions le droit de dire, malgré tout, qu'il s'agit d'un rapport de l'homme avec la donnée, et non point de la donnée elle-même, étant entendu que ce rapport est un rapport direct. Ceci dit, il reste vrai que la visée de l'immédiateté et de l'homme qui recherche l'immédiat, c'est de transcender le rapport lui-même. C'est non seulement de se passer d'intermédiaire, ce qui définit le rapport immédiat, mais encore de s'en passer tellement que finalement, la relation elle-même disparaîtra. Le rapport lui-même s'évanouira. Donc, la limite dans laquelle expire le rapport de l'homme avec l'immédiateté, c'est l'unité dans laquelle le rapport, finalement, a disparu. La limite du tête-à-tête, c'est la coïncidence pure et simple, comme nous le verrons bien en étudiant l'amour, par exemple, dans lequel la limite du rapport direct, immédiat par excellence, qui est le rapport des amoureux, qui, comme vous le savez, aime à être en tête-à-tête, n'est-ce pas ? Ils n'aiment pas les témoins et les tiers, ou s'ils les aiment, c'est qu'ils ne sont pas des amoureux, c'est qu'ils sont en grande représentation, c'est qu'ils sont faits pour qu'on les filme, n'est-ce pas ? Ils sont amoureux pour rire. Mais s'ils le sont vraiment, ils ne désirent pas de tiers. Ils désirent être en tête-à-tête. Et pourtant, la visée dernière de cet amour, c'est on ne sait quoi qui est au-delà, c'est la fusion unitive, la coïncidence, c'est de n'être que un en deux, comme déjà le disait, en termes si touchants, Platon dans Le Banquet. C'est de ne faire plus qu'un. Vous voyez donc qu'il y a un passage du trio au duo, n'est-ce pas ? Le trio qui est le rapport média par excellence, dans lequel on recourt à un tertium, à un tritonti, à un troisième terme. Le passage du trio au duo, qui est le rapport immédiat, par exemple, le relationnement direct de deux termes ou de deux êtres, et au-delà encore, la limite dans laquelle la relation expirerait, et qui est l'unité, la solitude monadique, mais dans laquelle l'homme est si malheureux que finalement, ce n'est pas non plus cela qu'il cherche. Et nous verrons que c'est une partie même de la tragédie. C'est pourquoi nous aimons bien dire que la limite de l'immédiat, ce serait ce rapport fictif qu'est le rapport avec soi-même. Comme quelqu'un qui dit par métaphore, avec celle qu'il aime le plus au monde, que parler avec elle, c'est pour lui comme parler avec soi-même. Platon disait bien, vous le savez, que la pensée est une espèce de dialogue que silencieux que l'homme a avec lui-même. Dialegestai, siope, sune auto. Converser silencieusement avec soi-même. C'est une belle phrase, et d'ailleurs qui donne beaucoup à penser. Mais enfin, malgré cela, ce rapport n'est qu'un rapport fictif. Deux choses l'une, ou bien le soi-même est lui-même double, la partie, une des parties du moi-même dialogue avec l'autre, ou bien c'est un dialogue pour faire semblant. Un dialogue qui en réalité est un soliloque, est un monologue. Si bien que finalement, ce point dans lequel l'objet, le sujet et le rapport de l'objet avec le sujet ne font plus qu'un, est aussi le point dans lequel le problème disparaît, dans lequel l'homme n'est pas arrivé à le saisir. Au point précis où il croyait avoir trouvé l'immédiateté par excellence, le donné, la vérité, l'autre que soit en lui-même, eh bien il n'y a plus rien, il n'y a plus de nouveau que la solitude. Et pourtant, ce point aveuglant, ce point ineffable que nous visons, et reste malgré tout la raison d'être du rapport immédiat. Le point dans lequel, je répète, parce qu'il y a trois termes, n'est-ce pas ? L'un, l'autre et le rapport des deux. Quand je dis objet, sujet, je précise encore trop, car le sujet peut être un amant et l'objet peut être une aimée, par exemple. Le sujet et l'objet, l'aimé ou l'amant. Et d'autre part, le rapport des deux, c'est-à-dire trois termes qui finalement se fondent en un même point. Coïncide en un même point que j'appelais tout à l'heure la présence présente qui est à la fois, puisque nous avons heureusement ces deux mots très distincts en français et qui en même temps sont l'un spatial, l'autre temporel, dans laquelle il n'y a plus qu'un présent et une présence, la présence de quelqu'un et le présent par excellence, le présent éternel. Eh bien, il est bien évident, j'aurai très souvent l'occasion de le redire, que cette visée, c'est un peu un problème d'acrobatie. C'est un rapport acrobatique. Nous verrons que même l'intuition qui essaye de saisir ce présent est une réussite acrobatique, de même que la découverte de l'immédiat, de la donnée immédiate, ou de l'être le plus proche de nous, est une découverte très périlleuse, éphémère, la découverte d'une chose qui est aussitôt reperdue que trouvée, et dont par conséquent la jouissance ne dure pour l'homme qu'un instant. Et pour la trouver même, il faut des prodiges de légèreté et d'acrobatie, comme nous le verrons. Bref, vous voyez que au-delà même de l'exclusion de l'intermédiaire, le rapport immédiat serait finalement l'absorption même du rapport, la disparition même, la sublimation du rapport qui s'évapore finalement et disparaît pour nous. Voilà le plan que nous suivrons. Après l'avoir proposé, n'est-ce pas, la coïncidence, la proximité, ou d'une part, dont la limite est la coïncidence, d'autre part, l'imminence dans le temps, dont la limite serait le présent, et puis le rapport avec la deuxième personne qui implique à la fois l'un et l'autre, qui est spatial et temporel, il ne faut pas se dissimuler que la distinction en elle-même est plus apparente que réelle. Elle est difficile à tenir, elle est un peu spécieuse. Et nous allons d'abord en énumérer quelques difficultés. Je veux dire qu'il est difficile ici de distinguer l'espace et le temps, alors qu'en réalité, il n'y a que le temps. Que le seul élément de la distinction, c'est le temps. Et que alors même que nous parlons d'espace, c'est encore de temps qu'il s'agit. En réalité, en effet, c'est le temps seul qui est médiatisant. Et par conséquent, c'est seulement la compression du temps qui me conduit à l'immédiat. La découverte de l'immédiat se fait par la victoire sur le temps, parce que c'est le temps seul qui est vraiment l'élément de la médiation, qu'il s'agisse de l'espace ou qu'il s'agisse de la durée. Dans les deux cas, je dis que c'est le temps, parce que c'est le temps seul qui est la dimension de mon effort, de ma fatigue, dont il nombre la durée, et que c'est cela qui est le côté véritable et dramatique de la médiation, et il n'y en a pas d'autre. Ce qui fait que la médiation est médiate pour l'homme, c'est les efforts qu'il fait pour la durée, c'est les étapes qu'il traverse dans le devenir pour la parcourir, c'est le temps qui le sépare du but, l'attente, l'expectation, la fatigue et tout le reste. Et cela se comprend bien. Si par hypothèse ou par un effort très facile d'imagination, vous séparez l'espace du temps. Si tant est qu'un homme qui est lui-même du temps et qui apporte le temps avec lui partout où il est, en quelque lieu qu'il se trouve, l'homme, être de temps, apporte le temps et mélange le temps avec l'espace. Mais si nous était possible, par hypothèse, de séparer l'espace et le temps, nous verrions que l'espace tout seul, sans le mouvement nécessaire pour le parcourir, et sans la durée que dure ce parcours, que dure ce mouvement, que l'espace en lui tout seul n'est nullement médiateur. Que ça ne veut rien dire, mais d'ailleurs qu'il est plutôt union qu'obstacle. Il est le lieu dans lequel les existences se groupent. Il est le groupement des coexistences. Et ce groupement en lui-même n'a rien de médiat, ne le devient que parce que j'y mêle en général le temps, par l'intermédiaire du temps. Et c'est pourquoi d'ailleurs la vision est en première apparence, tout au moins dans une vue plus élémentaire de l'immédiat, la vision paraît plus immédiate et paraît plus intuitive que l'audition, comme l'espace paraît au premier abord, au sens de l'impromptu, de la spontanéité, l'espace paraît plus intuitif que le temps et la vision que l'audition. De là la tendance que nous avons à concrétiser les processus temporels pour les rendre intuitifs, à les concrétiser dans les courbes, dans des graphiques, des schémas, des croquis, et aussi la direction privilégiée de la métaphore, qui est la transposition d'une dimension dans l'autre, mais une transposition privilégiée, qui est la transposition de l'ordre du temps dans l'ordre de l'espace. La métaphore par excellence est la métaphore qui transporte l'ordre temporel dans l'espace, et non point le contraire. Le contraire peut arriver aussi, mais le cas est moins usuel. Si la métaphore usuelle, celle qui rend sensible, intuitif, compréhensible un phénomène quelconque, un processus, est celle qui transporte le temporel dans l'ordre de l'espace, c'est probablement pour les raisons qui sont inhérentes à la nature même, à la structure même des existences spatiales qui sont données, groupées devant nous, même si elles ne sont pas étalées. L'idée même d'un intuitionnisme temporel, d'un intuitionnisme musical, est une nouveauté, comme vous le savez, une nouveauté bergsonienne, une nouveauté du XXe siècle. C'est la première fois que l'intuition, que l'idée de l'immédiateté et de l'intuition étaient liées, chez Bergson, non point du tout à la vue, mais à l'audition, non point du tout à l'espace, mais au temps. Pour la première fois, le temps devenait non point le lieu du discours, de l'effort laborieux, des tâtonnements progressifs, mais devenait au contraire le lieu privilégié de l'intuition, ce qui n'était pas du tout le cas ni chez Platon ni chez Plotin. L'intuitionnisme traditionnel chez Platon et chez Plotin est un intuitionnisme optique, un intuitionnisme visuel dans lequel l'idée de l'immédiateté est tout entière empruntée à la simultanéité des existences données dans l'espace. Et donc, la découverte de l'immédiat en cours de devenir est une nouveauté tout à fait moderne qui a engendré l'idée d'un intuitionnisme temporel et musical, mais qui n'est nullement traditionnel. L'intuitionnisme de Platon et de Plotin, qui est celui de la noésis, n'est-ce pas, l'acte du nous, l'acte de l'esprit, de la noèse, qui est, en somme, fait pendant à la vision. Ceux d'entre vous qui ont présent à l'esprit la fin du sixième livre de la République, de Platon, savent le parallélisme assez systématique que Platon établit entre noésis et orasis, c'est-à-dire entre l'intuition intellectuelle et la vision, et dans notre langage, dans le langage du cours que nous parlons ici, nous dirions entre l'immédiat ultérieur et l'immédiat citérieur, entre l'immédiat de la fin et l'immédiat du commencement, l'immédiat qui est oméga et l'immédiat qui est alpha. La orasis, la vision, c'est l'immédiat qui est au commencement, que nous décrivions dans le cours précédent. et c'est l'immédiat de commun, de la vision commune. Et l'immédiat qui correspond à la noésis est au contraire celui de la terminaison et celui auquel l'homme accède quand il est arrivé au seuil du sanctuaire, au seuil du saint des saints. Mais en tout cas, il y a un parallélisme entre les deux, comme il y a parallélisme entre l'immédiat aparté hanté et l'immédiat aparté poste que nous confrontions dans la séance précédente. C'est donc, pour revenir à notre propos, qu'il y a dans l'espace visuel, à supposer qu'on puisse le séparer des mouvements que nous faisons pour y pénétrer, de l'effort nécessaire pour exécuter ces mouvements, l'espace visuel en lui-même n'est point principe de médiation, mais au contraire, il nous offre plutôt l'image de la coexistence actuelle et statique de toutes les existences, et c'est pourquoi, à la limite, la horasis, la noesis, la noèse, est comme une vision, mais une vision intuitive, étendue à toutes les existences dans leur actualité plate. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle l'intuitionnisme emprunte la plupart de ses analogies, qui sont toujours des analogies à sens unique, comme la métaphore elle-même, pourquoi il les emprunte de préférence à la vision, à commencer par le mot intuition lui-même, qui après tout est un mot visuel. Intueri veut dire, comme vous le savez, regarder. Intueri ne veut pas dire saisir la donnée avec les oreilles, ni avec le voile du palais, ni avec la palper avec les mains, mais car tous ces sens sont liés plus ou moins à la succession dans le temps, à ce quelque chose de diffluent, de larvaire, de tâtonnant, qu'évoque même le palper des mains, et qui fait succéder les qualités les unes aux autres. Intuéri est lié toujours à l'acte du regard, c'est-à-dire à l'acte simple de l'œil qui se tourne vers la donnée. Et par conséquent, indépendamment des mouvements naissants, indépendamment des efforts virtuels, qui déjà, des contractions musculaires virtuelles, kinesthésiques, qui déjà naissent en moi à la vue du chemin que j'ai à parcourir, par exemple, quand je crois être arrivé au sommet de la montagne et que je m'aperçois qu'il y a encore probablement pour 2 heures de marche, en regardant, en appréciant la distance, souvent trompeuse, qui me sépare de ces rochers et de ce sommet. En réalité, bien entendu, je ne sépare pas l'échelonnement des objets, qui là est essentiellement trompeur, qui pourrait aussi bien être un tableau tout plat devant moi, mais je ne le sépare pas de l'expérience douloureuse que j'ai, des efforts encore à déployer pour arriver au sommet de ces sensations naissantes et de cette profondeur. Voilà pourquoi il y aura comme un nominalisme mystique de la vision, un intuitionnisme optique, si vous préférez, dans lequel l'immédiat, ce serait l'inspection instantanée par un seul regard, par une seule vue, d'un grand paysage métaphysique, d'une vue globale. C'est un mot très répandu, très, très fréquent chez Plotin. Qui est le représentant typique des mystiques de lumière, n'est-ce pas, de l'intuitionnisme de la lumière. La lumière, d'ailleurs, est l'exposant commun, le dénominateur commun à Horasis et à Noésis, chez Platon. La lumière est à la vérité comme la Horasis à la Noésis, comme la vision à la Noèse. Et la mystique plotinienne est une mystique de la lumière. Eh bien, c'est dans cette lumière que l'homme se donne une vision globale. Atros, c'est un adverbe, l'adverbe surtout atros, qui veut dire, en somme, globalement, d'une seule vue, est très fréquent chez Plotin, et s'applique particulièrement bien au regard qui embrasse, d'une seule vue, l'ensemble des existences. Et d'ailleurs, l'idée platonicienne du panorama, n'est-ce pas, que Platon exprime quand il dit que le dialecticien est une nature synoptique, synopticos, qui voit tout ensemble, qui voit tout par une seule synopse. L'idée même de la synopse intuitive, qui est l'idée platonicienne, exprime sous une autre forme, qui me paraît très claire, l'idée que, en somme, l'espace en lui-même, l'étalement des existences, est tout le contraire de la médiation, mais qu'il est pour moi la forme sous laquelle se présente le rapport avec l'immédiat, le rapport avec les existences immédiates. Ainsi, pour résumer ce point, si la vision n'était pas inséparablement associée par l'expérience aux leçons de l'effort, à l'expérience du mouvement, Si elle n'était pas donc associée à ces sensations toutes différentes, qui, elles, s'échelonnent dans le temps, le relief le plus tourmenté, du paysage le plus accidenté, serait encore une apparence pure, une forme pure, une actualité plate, pour un œil ingénu. Pour un œil, quand je dis un œil ingénu, je veux dire un œil qui ne mêlerait pas les indications optiques avec les contractions musculaires, avec la prévision de l'effort à accomplir, et qui ne tiendrait compte que du tableau qui lui est offert. C'est donc par l'intervention d'autres expériences, qui elles sont temporelles, comme celle de la douleur, de l'effort, de la fatigue et des mouvements, et que les plans interposés, deviennent d'abord des plans interposés, en général, et que ces plans interposés deviennent perspectivement les étapes d'un itinéraire, et souvent même d'un calvaire, d'un chemin douloureux, comme celui que le dialecticien doit monter, doit gravir, pour arriver au sommet d'une pente. Puisque tout à l'heure je parlais d'alpiniste à différentes reprises, en parlant du dialecticien synoptique et en parlant du sommet dont nous sommes encore séparés, c'est qu'en effet, la dialectique se présente souvent à cet égard comme une ascension. Ainsi, la vue omniprésente parcourt en un instant, embrasse d'un seul regard, le temps seulement de tourner l'œil, de tourner l'œil à droite et à gauche, ce qui a lieu dans l'instant, elle embrasse une profondeur où le mobile, lui, ne pénétrera que peu à peu, avec transpiration, avec un grand effort, et souvent avec une grande douleur. Je me demande, je ne suis pas sûr qu'il faille répondre, ce sont des impressions rapides que j'ai, que je me donne à moi-même en confrontant ces rapports, si l'intérêt que le XVIIIe siècle a pris aux apparences ne venait pas justement d'une recherche de l'immédiat optique. Nous parlions dans la précédente leçon de l'apparence pure chez Balthazar Gracian. De Balthazar Gracian à la synopse leibnizienne et plus tard à l'immédiat berkeleyien, il y a comme un intérêt grandissant pour l'apparence pure, comme l'apparence des cabinets d'optique avec lesquels les savants du XVIIIe siècle se plaisaient à jouer, comme s'ils jouaient avec la donnée immédiate, débarrassée de tout alliage avec d'autres sensations, avec des associations, et par conséquent, comme s'ils se donnaient de nouveau un contact, un rapport avec le donné pur. Mieux encore que cela, indépendamment de la variable temps, dont j'ai dit qu'elle était le seul principe de la médiation, et par conséquent que la victoire sur elle était la seule façon de trouver véritablement l'immédiat, indépendamment de cette variable qui est seul facteur d'innovation et facteur d'imprévisibilité réelle, même le cheminement à travers les obstacles et un itinéraire sinueux et tortueux à travers ces obstacles deviennent relativement immédiats. Si je ne faisais pas exception du temps, même ces sinuosités, qui sont le type même de la médiation, deviennent relativement immédiats. Pour l'œil pur, le média lui-même est immédiat. Pour l'œil pur, les complications même du tableau deviennent simples. Pour l'œil débarrassé de toute autre indication empruntée aux autres sens, les accidents du terrain, les complications du paysage, les différents plans dont nous parlions composent finalement un paysage simple que je survole d'une vue instantanée qui se contracte pour moi en immédiateté. Le média se contracte en immédiateté pour cet œil tout simple. C'est ainsi, par exemple, que d'une vue unique et simultanée, j'arrive à comprendre peu à peu, si vous voulez, les complications du mensonge par quelque chose qui n'est plus l'intuition simple, mais qui est l'intellection. Je comprends un menteur quand, par exemple, je sais que c'est un menteur. Pour une intelligence qui lit dans le jeu du menteur, le menteur est aussi simple qu'un homme véridique. Le mensonge lui-même devient une chose simple pour celui qui sait qu'il a affaire à un menteur et qui sait de quelle manière ce menteur est un menteur. Par exemple, dans les cas les plus simples. Quand j'ai affaire à un menteur qui exagère, n'est-ce pas ? C'est comme quand j'ai affaire à des verres déformants et quand j'ai calculé un indice de réfraction. Les verres déformants peuvent me servir à contempler le paysage dans sa vérité si je connais l'indice de réfraction, si je sais comment il faut corriger ces verres. Et de la même manière, le menteur est pour moi véridique si je sais de quelle manière il est menteur. Par exemple, s'il exagère, je sais qu'il faut retirer 5 ou 10 de tout ce qu'il dit, par exemple. Ou si c'est une dame, quand elle dit son âge, je sais qu'il faut ajouter quelques années, par exemple. Enfin, ce sont des réductions simples. Donc, à cet égard, les mensonges bénins, les mensonges sans gravité, les petits mensonges quantitatifs sont aisément réductibles. Pour qui a le chiffre ? Pour qui sait lire la simplicité dans la complication ? Mais même lorsque le mensonge est plus compliqué, lorsque je sais pourquoi le menteur est menteur, pour quelles raisons, quels sont les complexes qui l'agitent et qui se déchirent en lui, il peut devenir relativement simple. Par exemple, si j'étais un ange, ce qui n'est pas le cas, et que j'ai une vue radioscopique, si je puis dire, dans les consciences, dans les reins et les cœurs, sondant les reins et les cœurs, n'est-ce pas, sachant le pourquoi de toutes choses, comprenant les gens les plus compliqués, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens compliqués autour de nous, vous le savez, avec lesquels les rapports sont compliqués et tortueux et embrouillés. Eh bien, pour cette surconscience survolante, tous les hommes, simples ou compliqués, sont tous aussi simples les uns que les autres, n'est-ce pas ? Simplement, je dirais que les uns sont simplement simples, et les autres sont complexement simples. Les uns sont simples sans exposant, ceux qui disent la vérité, et les autres sont simples avec exposant, ceux qui mentent. C'est-à-dire qu'ils disent encore la vérité, mais qu'ils la disent malgré eux. Ils disent une vérité, ils disent pas la vérité qu'ils croient, mais pour moi qui comprends, ils disent quand même la vérité. Ça s'appelle interpréter. Tout à l'heure nous disions corriger les vers déformants, et maintenant il faudrait parler de l'interprétation. L'interprétation des mensonges, l'interprétation des hommes compliqués, l'herméneutique qui peut permettre de lire dans le jeu des hommes compliqués, et donc cette correction toute naturelle, spontanée et perpétuelle qui me permet de comprendre cette complication, cette simplicité complexe, n'est-ce pas, qui est en somme le lot de tout ce qui est médiatisé. Et à cet égard. Et par conséquent, on comprend bien que, de nouveau, ce qui est immédiat pour l'un peut ne l'être pas pour l'autre. Par exemple, ce qui est médiat pour une conscience lente, laborieuse, qui n'a facile à duper, à tromper, qui n'a pas compris le jeu du menteur, devient au contraire immédiat et tout simple pour une intelligence pénétrante et exercée. Pour lui, eh bien, le jeu du menteur ne sont devenus de grosses malices cousues de fil blanc et dans lesquelles on lit à livre ouvert, excusez-moi ces métaphores un peu incohérentes, enfin, si vous voulez, ce sera plus cohérent, le mensonge est un texte cryptique, mais en apparence seulement, dans lequel je lis à livre ouvert et en clair, et dans lequel la malice elle-même devient tout à fait simple et même simpliste. Dès l'instant que j'ai calculé le coefficient de déformation, que je connais l'équation personnelle du menteur, et par conséquent que je suis capable de déchiffrer le chiffre du brouillage, comme quand on a le chiffre du brouillage, et on comprend comment il est fait. Par conséquent, de nouveau, indépendamment du temps de l'effort, indépendamment du temps de la douleur, du temps laborieux de notre pèlerinage à travers les moyens termes, le média est relativement immédiat, comme la complication est relativement simple. Et je répète que pour une certaine conscience, qui serait comme le dialecticien synoptique de Platon, et qui survolerait toutes les complications des hommes, et les complications passionnelles, tout serait simple, pur et immédiat, et donné d'un seul coup. Tout serait simple, aussi bien les labyrinthes tortueux du mensonge, que les arrière-pensées retorses du menteur.